Léa Salamé, vous recevez ce matin le gouverneur de la Banque de France.
Bonjour François Villeroy-de-Gallo.
Bonjour Léa Salamé.
Vous adressez aujourd'hui une lettre au président de la République sur l'état économique de la France. Cette lettre annuelle est une tradition républicaine depuis 1945, où le gouverneur de la Banque de France va donner au président de la République cette lettre. Dominique Seux nous répète depuis quelques semaines que ça va mieux, que les voyants sont au vert, que la croissance revient. Est-ce qu'il dit la vérité, Dominique Seux, ou est-ce qu'il nous ment ?
Le constat par lequel s'ouvre cette lettre, qui rejoint ce que dit Dominique Seux, c'est que la France et l'Europe connaissent un moment favorable aujourd'hui. Il y a d'abord une clarification politique après les élections françaises, puis il y a une embellie économique. On ne sait pas toujours que l'Europe, au sens de la zone euro, va probablement connaître, pour la deuxième année de suite, le même niveau de croissance que les États-Unis.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire autour de 2%. Le défi pour nous, c'est de saisir ce moment favorable pour être ambitieux, pour être audacieux et pour rattraper enfin les retards français.
On va parler des réformes que vous demandez, que vous préconisez. Mais d'abord sur l'état de l'économie, est-ce que c'est une reprise, une vraie reprise ou est-ce que c'est une petite reprisette ?
C'est une vraie reprise, même si elle reste modérée. La France est en dessous, malheureusement, de ces 2% de croissance de la zone euro.
Vous prévoyez 1,4% pour cette année.
La France devrait être autour de 1,6%.
Ah, vous avez revu à la hausse.
Il se trouve qu'il y a des facteurs mécaniques qui conduisent à ce 1,6, comme d'ailleurs les deux années prochaines, si nous n'accélérons pas par des réformes et par une ambition globale. Alors, ça se traduit par une petite baisse du taux de chômage, mais nous resterions au-dessus de 9% de taux de chômage si simplement nous sommes une espèce de France assoupie, c'est-à-dire que nous constatons, nous profitons simplement de cette embellie, mais sans avoir l'ambition supplémentaire de nous transformer et de faire les réformes qui ont marché chez nos voisins européens.
Mais pardon François Villeroy-de-Gallo, pourquoi est-ce qu'on dit qu'on n'a jamais créé autant d'emplois, 200 000 emplois en 2016, c'est une année record, et en même temps, le taux de chômage qui ne baisse pas ou qui baisse si peu, 50 000 chômeurs de plus en mars, 22 000 chômeurs de plus en mai, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une contradiction ? De plus en plus d'emplois créés et le chômage qui ne baisse pas.
Alors, je crois qu'il faut qu'on reste une minute sur cette question du chômage qui est évidemment vitale pour nos concitoyens. La France a créé, c'est vrai, 200 000 emplois en 2016. C'est l'effet du CICE, du pacte de responsabilité et puis plus temporairement de la prime à la première embauche. Grâce à cela, nous sommes descendus un peu en dessous des 10% de taux de chômage.
C'est peu.
Quand on se projette sur les prochaines années, c'est la prévision de la Banque de France, s'il n'y a pas d'accélération des réformes, nous pourrions descendre autour de 9% de taux de chômage. Et puis, en gros, nous arrêter là à quelques années, c'est beaucoup trop élevé. Si nous faisons ces réformes dont nous allons parler, avec cette ambition globale de transformation, nous pouvons viser d'être à 7% de taux de chômage. 7%, nous aurions comblé la moitié de notre retard par rapport à l'Allemagne. Mmh. Et c'est le point le plus bas que nous avons atteint avant la crise. Alors, ça paraît peut-être abstrait, 7%, 9%. Mais la différence entre les deux, c'est près de 600 000 personnes qui auront retrouvé un emploi. 600 000 personnes avec leur famille. Ça change totalement la cohésion sociale en France.
Si, je termine la phrase, si les réformes sont faites selon vous. Alors justement, ça fait 10 ans que vous demandez des réformes structurelles de la France. Est-ce que vous les voyez venir aujourd'hui avec les annonces d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe ?
La France a d'abord fait un certain nombre de réformes ces dernières années, mais pas assez. Le cap, c'est lequel ? Une France plus forte, c'est une France qui enfin interrompt la dérive de ses dépenses publiques. Ça, c'est une anomalie française flagrante. C'est une France qui a davantage de talents humains et c'est une France qui a moins de règles inefficaces.
Alors, d'accord, mais on est dans l'abstrat. Pour être très clair,
parce qu'on
a eu des annonces très claires. Vous savez, on est dans une nouvelle génération. On parle d'une nouvelle ère politique, etc. Et la nouvelle ère, c'est de dire la vérité. Donc même le gouverneur de la Banque de France peut-être sortir de ses pudeurs pour nous dire ce qu'il pense de des annonces.
Disons la vérité tout de suite sur les finances publiques. Commençons par ça parce que c'est l'anomalie française. Pour avoir en gros le même modèle social que nos voisins, et je crois au modèle social européen, nous ça nous coûte 56% de notre richesse nationale, de notre PIB. Nos voisins de la zone euro, ça leur coûte 10 points de PIB de moins, c'est-à-dire 220 milliards de moins. Alors, vous voyez que là, il y a un champ d'action très concret. Ce qui a été annoncé par le gouvernement sur l'étalement sur la durée du quinquennat d'un certain nombre de baisses d'impôts, par rapport à ça, me paraît lucide et courageux.
Alors, 60 milliards d'économies sur le quinquennat, annoncé par Édouard Philippe hier. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas assez, pour être clair?
Alors, sur la dépense publique elle-même, c'est ça qu'il s'agit de freiner. Au passage, il ne s'agit pas de couper la dépense publique, mais de freiner beaucoup sa hausse. Ce qui a été annoncé pour l'année prochaine, c'est une dépense publique qui progresse comme l'inflation. Ça paraît raisonnable. Maintenant, il faut associer ça à une grande réforme dans les services publics. Il y a des champs d'économie possibles dans le logement, dans certaines dépenses sociales, dans certaines dépenses locales.
Qu'est-ce que vous voulez? Pardon, je vous prends parce que ça intéresse nos auditeurs. Qu'est-ce qu'il faut couper dans les dépenses sociales?
Ça n'est pas à moi de choisir les priorités et puis les sujets où on peut simplement reconduire ou faire autrement. Mais on parlait tout à l'heure de l'innovation dans les entreprises. Il peut aussi, heureusement, y avoir de l'innovation dans le service public. Moi, je suis un passionné du service public, je crois qu'il peut innover, je crois qu'il peut faire mieux, je crois aussi qu'il peut responsabiliser les gestionnaires. Vous savez, les managers publics, quand on leur donne une enveloppe qui peut être une enveloppe exigeante, mais on leur trace leurs objectifs à plusieurs années, et à l'intérieur de cette enveloppe, on leur donne davantage d'autonomie de gestion, eh ben, ils peuvent faire des gains d'efficacité, avoir un meilleur service public.
Toujours Édouard Philippe, toujours le Premier ministre, qui annonce, pour ce qui est de la fonction publique, un plan d'économie très strict. Il veut stabiliser la masse salariale alors que la croissance naturelle de la masse salariale, c'est d'augmenter de 1,5% par an. Est-ce que stabiliser la masse salariale dans la fonction publique, c'est suffisant ou c'est pas assez?
Encore une fois, le détail des choix à l'intérieur du service public, ça relève du pouvoir politique et c'est normal, ça fait partie de la démocratie.
Vous voulez pas commenter.
Le gouvernement et le Parlement. J'ai donné un certain nombre de pistes sur la dépense publique, mais les réformes, ça n'est pas que ça. Ce qui est très important pour qu'il y ait un équilibre, une efficacité économique et puis un équilibre social, c'est qu'on agisse sur un peu tous les fronts à la fois. C'est vraiment le moment d'être audacieux et ambitieux. Et pour vous citer une très grande priorité sur les talents humains, ce qui concerne l'éducation, la formation professionnelle et l'apprentissage pour les jeunes, ça c'est vital pour donner sa chance à chaque Français.
Ce que vous avez entendu de Jean-Michel Blanquer, nouveau ministre de l'Éducation, vous semble aller dans le bon sens?
Je crois que de façon générale, la priorité est assez haut. Après, il y a 5 ans pour juger et pour avancer. Je voudrais insister sur la formation professionnelle et sur l'apprentissage. Parce que là, on peut avoir des retours rapides, donner plus de qualifications aux Français, ça leur permet de retrouver un emploi. Et puis les jeunes, nous avons 2,5 fois moins d'apprentis qu'en Allemagne, et nous avons malheureusement un taux de chômage des jeunes qui est 3 fois plus élevé. Il n'y a sans doute pas de priorité plus urgente que celle-là.
Une question plus large. On dit souvent que les planètes sont alignées pour Emmanuel Macron. Est-ce que vous pensez qu'il a du bol, pour être clair, Emmanuel Macron, qu'il a de la chance ou qu'il bénéficie d'une conjoncture très favorable qui a été amorcée, qu'il bénéficie des réformes déjà entamées par François Hollande?
Je crois que c'est la France qui a de la chance et l'Europe. C'est cette embellie économique dont nous parlions, mais il ne s'agit pas simplement d'attendre que cette chance se réalise, il s'agit de la transformer par l'action. Et ça, c'est le terrain de jeu français. Il faudra aussi réformer le marché du travail, casser un certain nombre de rangs
anticoncurrentiels. Elle arrive, la loi travail.
La loi travail, elle va permettre d'augmenter l'emploi.
Vous la regardez avec un œil bienveillant, cette loi, ce que vous envoyez?
On va voir les détails, mais il est sûr que c'est un des retards français sur l'emploi, qui explique le chômage. Mais à côté de ce terrain de jeu français dont on a parlé, il faut aussi accélérer sur le terrain de jeu européen. Là, la France, avec l'Allemagne, a les moyens de pousser une optimisation de la zone euro. L'euro est une bonne monnaie, mais nous pouvons avoir davantage de croissance et d'emploi si nous agissons ensemble.
Question plus personnelle, vous qui avez travaillé avant d'être gouverneur de la Banque de France avec Dominique Strauss-Kahn, quand vous voyez que la Strauss-Kahnie est très fortement représentée dans la Macronie, en clair la plupart des conseillers et des proches d'Emmanuel Macron sont des ex-strausskaniens, vous vous dites que c'était une bonne école?
Je ne crois pas que ce soit un critère de jugement d'avoir appartenu à l'école A, B ou C. Moi, j'ai mon histoire, j'ai aussi travaillé avec Pierre Bérégovoy, j'ai travaillé à l'intérieur du service public avec des ministres de tous bords. Ce qui compte, c'est la qualité des gens, leurs compétences professionnelles. Ce qui compte peut-être aussi, c'est la passion de la France. Pardon de le dire comme ça, mais je crois que nous aimons tous notre pays et que la réussite de notre pays, dont nous parlons ensemble, elle dépend bien sûr du gouvernement, d'un programme politique, mais elle dépend aussi de chacun de nous. Saisissons ce moment favorable pour avoir une mobilisation collective.
Merci François Villeroy de Gallo d'être venu en exclusivité nous détailler votre lettre au président de la République et belle journée.